Ce métier est très riche et très divers et a beaucoup d'aspects différents qu'on n'envisage pas. Ce n'est pas que habiller des gens. Moi, tout de suite, je suis en train de faire un spectacle qui est en solo et qui part de mon expérience. Mais l'envie de ces interviews, c'est aussi de vous rencontrer, de vous donner cet endroit pour vous exprimer, puis pour que moi aussi, je me reconnaisse peut-être un peu et que je puisse faire des propositions assez fidèles à ce qu'on est toutes.
La Servante, solo pour une habilleuse, le podcast. Cette fois, Carole retrouve Colline, une camarade d'études devenue habilleuse pour le cinéma. Si Carole s'est tournée vers le spectacle vivant, Colline a choisi l'habillage côté cinéma. Sans caméra cette fois, mais derrière le micro, Colline partage son parcours et son regard sur le métier. Un échange simple et complice, où se raconte un autre versant du métier d'habilleuse.
Est-ce que tu peux me dire tes ou ton métier ?
Alors, je suis costumière et habilleuse pour principalement le cinéma et l'audiovisuel. Donc, ça inclut films, séries.
C'est quoi les missions d'une costumière et d'une habilleuse sur...
Alors, ça dépend du poste que j'ai sur le projet, parce qu'on peut me proposer des postes assez variés. Parce qu'on est des équipes plus ou moins grandes selon la taille du projet. Et donc, ça peut aller de la préparation en amont, donc jusqu'à 3 mois parfois avant le tournage. Ensuite, ça peut être... Donc, la préparation, ça inclut donc tout ce qui est recherche iconographique, par exemple, essayage, préparation de stock chez les loueurs quand c'est des films d'époque, par exemple. Ça peut être... Donc la partie atelier, donc fabrication de costumes, c'est-à-dire couture, quoi. Je sais pas, retouche, ornementation, des choses comme ça. Ensuite, une fois que tout est prêt, enfin tout n'est jamais prêt, mais une fois que le tournage commence, plutôt, donc il y a la partie habillage sur le plateau. Donc ça consiste à donc aider les comédiens et comédiennes à s'habiller si, par exemple, il s'agit de costumes d'époque. Ça consiste en savoir... c'est nous la référence de... Comment dire, comme le film n'est pas tourné dans l'ordre chronologique, mais plutôt en fonction de, par exemple, disponibilité de décors, disponibilité de comédiens, comédiennes, eh bien, c'est nous qui sommes... la référence en termes de suivi de qu'est-ce qui est porté tel jour dans la continuité de l'histoire. Donc c'est aussi un dialogue avec la script qui gère également cette continuité chronologique. Et donc c'est à nous de dire au comédien ou à la comédienne qu'est-ce qu'il ou elle doit porter. C'est pas sa charge mentale à lui. Et voilà, et après, une fois qu'on est sur le plateau, on doit suivre les raccords par séquence. Donc, c'est-à-dire que si on fait 14 fois la même prise pour une séquence, on doit veiller à ce que le costume soit raccord, dans le sens où, par exemple, si les manches étaient retroussées, et ben, il faut qu'elles soient retroussées de la même façon pendant toutes les prises, afin qu'au montage, il n'y ait pas de problème de raccord. Chronologique. Ou... On doit aussi s'assurer de l'entretien des costumes pendant le tournage. Il y a aussi un aspect un petit peu confort concernant les comédiens comédiennes, c'est-à-dire que l'on doit veiller à leur confort vestimentaire lié à la chaleur, à la fraîcheur, des choses comme ça. Et après, la dernière phase de travail sur un film, c'est donc les finitions, les rendus. C'est-à-dire qu'il faut tout ranger, tout rendre au loueur, en l'état. Tout, en fait, décider de qu'est-ce qui va devenir de tous ces costumes qui ont soit été fabriqués, soit achetés, soit loués. Voilà, conclure un peu, conclure le projet.
Du coup, c'est des tournages qui parfois durent plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que... On lit des liens avec les artistes que tu habilles, ou est-ce que c'est très furtif et...
Oui, ça peut être donc, je pense que le minimum c'est environ 2 mois et ça peut être, j'en sais rien, 6 mois si c'est une série en termes de durée. Et oui, bah après c'est un peu comme une colo quoi. on crée des liens avec la technique aussi beaucoup. Mais là la question c'est plus les artistes. Ça peut, ça dépend un peu de qui est en face et ça dépend aussi de. Oui, voilà, de comment le feeling passe, mais oui, forcément, c'est assez intime, en fait, comme poste. On est un peu la première personne que le comédien ou la comédienne voit le matin, avec également le maquillage, coiffure. On est, en fait, donc l'habillage, le maquillage et la coiffure, on est les 3 postes assez intimes. Enfin, c'est des métiers qui sont assez... où il y a pas mal de proximité, en fait, et corporelle, et psychologique. Avec les comédiens, comédiennes. En fait, c'est des métiers où ils sont plus sujets à se confier, tout ça, parce que c'est des petits comités. Une fois qu'on arrive sur le plateau, il y a vite 30-40 personnes. Alors que quand ils sont au maquillage, à la coiffure ou à l'habillage, ben, y a 2-3 personnes maximum. Et c'est vrai que c'est un rapport déjà au corps. Enfin, en fait, on s'occupe du corps de la personne, donc... Il y a une proximité, mais il y a aussi voilà, un moment un petit peu plus personnel, plus intime, où on peut un peu plus parler de choses qu'on n'aborderait pas forcément sur un plateau où il y a 50 personnes. Quoi.
Quels sont les plaisirs et les difficultés de ce poste-là en cinéma ?
Alors moi, vraiment, ce que j'adore, c'est donc m'occuper de la figuration, plus que des rôles. En fait, donc la figuration, c'est plus... une masse de personnes, quoi. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est très joyeux. On voit plein de gens différents. Et c'est assez détendu parce que parfois, au rôle, il y a plus une pression si la personne a une certaine renommée, tout ça, ou des attentes ou des exigences. En fait, c'est très centré autour d'une seule personne. Et donc ça peut créer une sorte de... Enfin, ça peut créer certaines... oui, tensions, exigences, tout ça. Et ce que j'aime bien donc, à la figuration, c'est que c'est beaucoup plus détendu parce que... en fait, on n'est pas sur la même attente de détails. C'est plus, en fait, un tableau d'ensemble. Mmh. Et j'aime bien aussi décentrer cette attention pour justement créer ouais, une sorte de tableau... un tableau visuel où en fait je trouve pas que ce soit moins important que les rôles en fait la figuration parce que c'est ça qui crée la vie aussi dans les films et j'adore en fait justement créer enfin contribuer à créer cette espèce de vie d'arrière-plan qui n'est pas du tout superflu. Enfin par exemple une journée type c'est que on doit essayer 50 figurants, un par un, et donc on est plusieurs habilleurs, habilleuses, et on prend une personne, une par une, et donc on regarde quel est son rôle. Ah bah du coup tu seras vendeuse de fleurs, d'accord, bah alors on pourrait se raconter que tu pourras avoir un petit tablier, comme ça tu pourras avoir... mettre tes petits bouquets dans ton tablier retroussé et puis du coup on pourrait s'imaginer que t'es un tout petit détail une petite poche brodée avec des fleurs comme ça ça ferait un petit rappel mignon de ton métier. Enfin, en fait ce que j'aime bien c'est qu'on peut vraiment se raconter des histoires à petite échelle et c'est ça qui crée aussi de la vie je pense dans l'ensemble. L'étape d'après c'est donc l'habillage de ces personnes le jour J. Le jour du tournage, donc par exemple, on a 300 figurants habillés en 2 heures et on est, 20 habilleuses. J'adore en fait cette adrénaline de il faut habiller très vite toutes ces personnes et il est extrêmement tôt le matin. Et en fait, c'est très joyeux parce que, en tout cas, moi j'aime bien. Enfin, moi j'ai envie de rendre ça joyeux parce que j'aime trop ce moment de. Oui, d'adrénaline et qu'en fait. Oui, il est beaucoup trop tôt, mais on est content d'être là et on rigole et je fais un peu des blagues. et puis, du coup, les gens passent un bon moment, j'espère. Et parce qu'en fait c'est pas forcément évident quand on est figurant-figurante, parce que c'est extrêmement mal payé, c'est des journées extrêmement longues, les personnes sont pas toujours très bien traitées, parce qu'elles sont vraiment reléguées au second plan et pas considérées forcément toujours comme des techniciens, techniciennes du projet. Donc ça, c'est un peu violent. Des fois, c'est vraiment... Ils sont un peu considérés comme du bétail, quoi. Mmh. Donc moi, j'ai vraiment à cœur que ces personnes-là passent un bon moment à l'habillage, au moins.
Et c'est pas forcément quelque chose qu'on te demande sur le papier, mais toi, intuitivement, tu le fais parce que ça fait partie de nos missions implicites de nos métiers.
Bah, c'est pas forcément ce qu'on nous demande, mais c'est-à-dire que des fois, quand je vois des collègues qui parlent vraiment très mal à des gens, c'est pas non plus ce qu'on nous demande. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on nous demande vraiment ? Ben, je sais pas, le respect, de la bienveillance, le respect du consentement, je sais pas, enfin, vraiment des choses basiques entre êtres humains, quoi. Et ben, je vois pas pourquoi ça s'appliquerait pas face à ces êtres humains-là qui sont aussi là pour... pour le film, enfin, on travaille sur le même projet, quoi. Et il n'y a pas des êtres humains qui valent moins que d'autres sur un plateau.
Au-delà du cinéma, tu fais d'autres choses ?
Je travaille un peu pour le Moulin Rouge.
Ouais, c'est totalement différent, du coup.
C'est totalement différent, parce que donc, c'est du spectacle vivant. C'est le même spectacle depuis 1999, donc c'est extrêmement rodé. Alors que le cinéma, c'est vraiment tous les jours différent. Ce que je fais, c'est que je suis dans un atelier au Moulin Rouge où on fait toutes les réparations et tout l'entretien, toute la maintenance en fait, des costumes qui ont joué la veille et qui ont subi des dommages liés aux conditions intenses du spectacle. Et oui, c'est très différent du cinéma et j'aime bien cette différence, cette respiration où en fait le stress n'est pas du tout le même au cinéma et que en fait enfin on peut prendre le temps en fait de restaurer un costume pour qu'il puisse vraiment durer, là où parfois dans le cinéma on n'a pas du tout le temps, quelque chose casse pendant une prise et il faut que ce soit de nouveau opérationnel la prise d'après, et des fois c'est vraiment du système D le temps que qu'on puisse continuer à tourner, quoi.
Ouais, là au cabaret il y a pas de scotch ni de graffeuse pour réparer en quatrième vitesse.
Non, enfin, ça doit arriver, voilà, oui, si vraiment ça casse pendant le spectacle. Mais l'idée, c'est qu'après, voilà, le lendemain, ce soit pris en charge et que ce soit une vraie réparation qui soit faite. Et ça fait plaisir de faire bien son travail aussi. Enfin, de manière consciencieuse et durable.
Comment t'en es venue au costume ? Enfin, c'est quoi ton parcours ?
Moi, j'ai fait un bac littéraire. Et en fait... quand j'étais petite, je faisais vraiment beaucoup de créations diverses et variées. Ça m'a toujours beaucoup plu. Et en troisième, je crois, j'avais acheté une machine à coudre et j'avais appris toute seule la couture avec Internet. Et j'avais la chance aussi d'être beaucoup emmenée au théâtre par mes parents. Et ça me plaisait beaucoup, la scène, enfin en fait, le live et le... comment dire, l'imperfection de... du réel, quoi. Non. C'est-à-dire que oui, voilà, chaque soir, la même représentation sera un tout petit peu différente parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte qui font que ce sera jamais pareil. Ça m'a beaucoup plu. En fait, après, je me suis dit, mais couture, scène, qu'est-ce qui peut se passer entre les deux? Et je crois qu'en fait, j'ai vraiment eu un déclic quand je suis allée voir un film un peu nul, hein. Je le dis tout de suite. Mais... bon, c'était Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton.
Bah, c'est pas un peu nul, c'est quand même un...
non,
c'est une référence.
C'est une référence, mais...
notamment en costume. Enfin, c'est...
les costumes sont assez fous. Le film en lui-même, peu importe en fait, on s'en fiche. Mais c'est vraiment ça qui m'a créé un déclic. En fait, je me souviens que pendant le générique, j'ai vu... costume designer, et je me suis dit, ah oui, en fait, bah oui, des gens font les costumes, et elle s'appelait Colline. Et je me suis dit, ah, mais en fait, est-ce que c'est pas un peu le job de mes rêves? Et à partir de là, donc là, j'étais en seconde, je pense, donc l'idée est née. En fait, donc après mon bac, j'ai pris une année sabbatique, où j'avais, En fait, comme je sortais d'un bac littéraire et que j'avais été autodidacte, j'avais quand même peu de chances d'entrer dans une école de costume. Donc j'ai décidé, pendant cette année sabbatique, de préparer un dossier avec des costumes que j'espérais être impressionnants pour impressionner le jury. Donc voilà, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Et ça a porté ses fruits et j'ai été prise dans une école de costume, donc à Dole dans le Jura. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, c'était très chouette. C'était un peu vertigineux au début parce que j'étais assez ignorante par rapport aux autres personnes de la classe qui avaient tous déjà fait un peu des études de couture. Et voilà, donc c'était un peu dur, mais je voulais trop être là et... J'étais trop contente d'être là et enfin je sentais que c'était ma place et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Et après ça, j'ai fait une année d'études à Paris où j'ai appris la broderie, la chapellerie, les plumes et les fleurs artificielles. Donc ça m'a aussi beaucoup nourrie parce que c'est là que j'ai découvert plus aussi un attrait assez fort pour la broderie. Que donc après j'ai développé, que je n'ai cessé de développer dans mon travail personnel. Et après j'ai terminé mes études avec une année à l'ENSAT à Lyon, donc c'est une école avec tous les corps de métier du théâtre, dont le costume. Et après je me suis lancée quoi, dans la vie active.
Qu'est-ce que tu as fait comme robe extraordinaire pour ce dossier?
J'avais fait un corset seul, donc déjà c'était techniquement c'était assez intéressant. Ensuite j'avais fait une robe style Marie-Antoinette, donc une robe à la française 18e siècle, et j'avais aussi fait une robe à tournure 19e, et il y avait une robe une reproduction de la robe portée par Mina dans le Dracula de Coppola. Voilà, une robe rouge extrêmement... qui nécessite 22 mètres de tissu.
Oui. Et pour toi, tu es arrivée en DMA, tu n'y connaissais rien.
Ben, c'est-à-dire que le premier jour, je ne savais pas ce que ça voulait dire, le biais et le droit fil, quoi. Donc là, j'ai quand même un peu déchanté. Hein. Enfin oui, de mon côté, j'avais l'impression de gérer la couture, mais...
Voilà, c'est des méthodes. Après, tu avais quand même un attrait. Enfin, est-ce qu'on ne peut pas être fier aussi d'être autodidacte et sans méthode et sans transmission, arriver par ses petites mains à faire des choses qu'on nous a jamais appris?
Si, c'est beaucoup de fierté, et aussi ça apprend peut-être une autre méthode, oui, plus débrouillarde. Mais c'est juste que dans ce cadre-là du DMA, il fallait quand même un peu se plier à des exigences techniques et scolaires.
Oui.
Et il y a quand même un peu un imaginaire autour de la couture assez guindé, assez protocolaire, où on fait pas comme on veut, quoi. On respecte les règles. Et voilà, il y a des méthodes, et pour être une bonne couturière, docile, il faut les respecter.
Ah oui, tu dirais que c'est une des qualités qu'on nous demande d'avoir, d'être docile?
Non, mais en fait, j'ai dit ça par rapport à l'imaginaire qu'il y a autour de la couturière, qui est une certaine domesticité de la femme. Où elle est tête baissée devant son ouvrage. Et oui, en fait, pour être une bonne couturière, il faut se plier aux règles, et on fait pas comme on veut, quoi. Il faut respecter ce qui t'a été transmis, et voilà, respecter, voilà, suivre les règles. Enfin, il y a une façon de faire, il faut la respecter, et on s'improvise pas en fait couturière. C'est
un savoir-faire.
Voilà, c'est un savoir-faire qui se transmet, souvent de femme en femme. La mère de mon père, donc ma grand-mère, en fait, c'était vraiment son rêve d'être couturière. Elle a passé elle est montée à Paris pour passer un diplôme de couture qu'elle a eu. C'était vraiment son rêve. Et en fait, après, elle s'est mariée, et elle a travaillé dans une épicerie. Et voilà, son rêve, c'était d'être couturière pour, à l'époque, des particuliers, des personnes plus aisées qui ont besoin de se faire fabriquer des robes. C'était ça qu'elle voulait faire et elle avait été excellente dans ses études. Et après, ça a toujours été un regret que sa carrière n'ait pas pu s'envoler. Mais voilà, je crois que ça lui a fait plaisir que je reprenne le flambeau. Actuellement, dans mon travail, je fais pas toujours beaucoup de couture. Parce que, donc, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, il y a pas mal de postes qui peuvent m'être attribués. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la couture. Mais j'ai encore un complexe. Assez fort, parfois. Lié à mon autodidactiture.
Ton autodidactiture, tu as quand même un DMA,
ah oui, mais,
un FCL.
C'est-à-dire que quand je me retrouve dans un atelier où il y a une hiérarchie, quand je suis mon propre atelier, tout va bien. Mais quand il y a des chefs d'atelier avec des attentes précises, en fait, ça me fait assez paniquer parce que j'ai peur de pas répondre aux exigences. Alors que si on m'avait demandé de faire... Si on m'avait demandé de faire ça seule, je m'en serais sûrement très bien sortie, mais en fait, le contexte de la hiérarchie d'atelier me renvoie, je pense, un petit peu à ce que j'ai vécu en DMA, où je me sentais pas dans le haut du classement, quoi. Et même 12 ans après le DMA, c'est encore un peu ancré, et c'est difficile à déconstruire. De se dire que... Enfin, parce que j'ai quand même un parcours... j'ai rattrapé, quoi, l'autodidactiture, je pense.
Largement.
Je suis quand même très bien formée à la couture. Mais voilà, un petit complexe.
Et dans la broderie ?
Alors, la broderie... Donc, comme je disais, donc j'ai découvert pendant cette formation d'un an à Paris. C'était plutôt une initiation parce qu'on apprenait beaucoup de métiers différents. Mais ça m'a vraiment beaucoup plu et après j'ai développé par moi-même. Mais c'est vrai que c'est une approche assez différente. Donc moi ce que je fais en broderie c'est du travail de broderie d'art. Donc en fait c'est des pièces, je travaille beaucoup en volume. Je fais des sortes de sculptures textiles. Je travaille beaucoup sur les thèmes de l'organique. Donc le corps humain ou la décomposition de corps humain ou la décomposition de la nature, voilà. Et en fait, donc je fais des pièces qui après peuvent être amenées à être exposées. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est pas du tout... Quand je dis que je fais de la broderie, les gens ont vraiment une attente... je sais pas, de quelque chose de plat, de quelque chose d'assez classique, du fil en fait, du fil sur du tissu, pourquoi pas des fleurs. Et en fait, quand je montre après mon travail, c'est vrai que les gens ne s'attendent pas du tout à voir un cœur transpercé en volume, quoi, brodé de perles et de soie froissée. Et en fait, c'est ça que j'aime un peu, c'est... montrer la broderie là où on l'attend pas et déconstruire justement aussi cet imaginaire de domesticité de la femme et des travaux d'aiguille et vraiment un peu déconstruire la broderie de manière contemporaine et inattendue.
Est-ce que quand tu étais petite, parce que tu me dis que tu faisais des costumes, mais les costumes que tu as fait pour te préparer et tout ça, tu les faisais pour toi, sur toi ? Tu les as portées, ces robes ?
Ouais. Quand je préparais ce dossier pour le diplôme, pour l'entrée au diplôme, ouais, je les portais. Enfin, ça faisait partie du rêve un peu, quoi. Ils étaient sur mesure. Après, voilà, je les portais. Il y avait un maquillage, une coiffure... J'avais une copine photographe qui me faisait des photos dans des lieux. Et oui, c'était une mise en scène de moi-même. Dans ces costumes, j'y prenais beaucoup de plaisir. Mais c'est plus du tout quelque chose qui me fait envie. cette mise en scène de moi-même dans des costumes. Enfin, peut-être juste pas ce genre de costume. Je pense que je pourrais y trouver du plaisir dans d'autres types de costumes, mais... Oui, oui, c'était vraiment... Je pense qu'en fait, c'est peut-être aussi partie, voilà, d'un fantasme de porter des choses incroyables. Mais en fait, il n'y a pas de contexte pour les porter. Et aussi, où trouver ces choses en dehors de les fabriquer. Et je pense que, oui, ça a dû partir de là aussi, cette motivation de postuler à ces écoles et de tout donner alors qu'il n'y avait aucune chance d'être prise. En fait, c'est vraiment un métier très étrange d'habiller un corps qui n'est pas le sien. On se retrouve face à une personne où il y a une espèce d'ascendance dans le sens où c'est nous qui allons lui dire quoi mettre et c'est nous qui allons avoir accès à son corps de manière tout à fait convenue. Enfin, il y a un cadre en fait, mais c'est extrêmement étonnant quand même de se dire... Ok, donc là, la personne est en face de moi en sous-vêtement et je vais avoir accès à son corps. Et en fait, elle va rien vraiment dire parce que moi, je vais faire mon travail de l'habiller. Et en fait, elle est là pour se laisser faire. Et c'est des choses auxquelles je pense beaucoup. Et j'essaye beaucoup de communiquer. Enfin, j'en parle pas beaucoup avec mes collègues. C'est, en fait, c'est pas du tout quelque chose dont on parle et dont on est formé. En fait, le rapport au corps et la demande du consentement par rapport à l'habillage. Je me souviens la première semaine du DMA où on s'est retrouvés...
À prendre des mesures.
Moi, j'avais 19 ans. J'étais un bébé. On s'est retrouvés face à des comédiens en slip.
Oui, qui étaient plus âgés.
Plus âgés.
Voire du même âge que nous. C'était...
Voilà, il fallait prendre les mesures d'une personne. Toi, tu es habillée. La personne en face est en sous-vêtements. Tu dois toucher son corps. Tu ne connais pas cette personne. Tu dois faire son travail. On a des indications techniques. Je ne me souviens pas forcément avoir été sensibilisée au fait de... comment réagir face à une personne qui est un peu quand même dans une position de vulnérabilité où c'est toi qui as le contrôle. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, et puis c'était des comédiens amateurs qui... On était 16 à manipuler 16 personnes dans une toute petite pièce, là.
Oui, je me souviens extrêmement bien. C'était...
C'était un baptême du feu.
C'était très étrange.
C'était très étrange, oui.
Non, mais moi, j'ai envie de continuer à faire ce métier en toute bienveillance et dans les meilleures conditions possibles, que ce soit notre traitement à nous en tant que technicien-technicienne, en termes de valorisation et reconnaissance de notre travail, et aussi, voilà, en termes de traitement des corps qui nous entourent.
Si t'avais pas été costumière, t'aurais fait quoi ?
Avant d'avoir eu cette idée, j'ai réfléchi à comment devenir bibliothécaire. Voilà. Mais je sais pas, non, je me sens bien à ma place.
Ouais.
Aussi absurde que ce métier peut être parfois. Coucou Carole, il est 22h et j'ai décidé de te faire un petit vocal. J'espère que ça va bien. Écoute, j'avais envie de te faire ce vocal parce que depuis la semaine dernière, là, je fais de l'habillage pour du spectacle vivant, donc dans deux endroits, donc à la MAC de Créteil, donc une scène nationale, et à la Scala de Paris. Et en fait, je pense trop à toi et à ton spectacle, mais tout le temps. Et je découvre ce milieu, en fait. Enfin, je découvre vraiment l'habillage en théâtre. Et je sais pas, je trouve qu'il y a plein de choses qui prennent sens par rapport à des trucs que tu m'as dit et tout. Et donc là, je suis à la Scala cette semaine. Et donc, j'ai vu une servante pour la première fois
parce que la seule que j'ai vue, c'était dans ton spectacle. Et donc là, quand elle m'a fait visiter le théâtre, ma chef, donc on est allé sur la scène, mais il y avait une servante et je sais pas, ça m'a émue. Voilà. Mais du coup, je suis trop contente de faire du spectacle vivant parce que, en fait, je crois que ça m'avait trop manqué et ça me rappelle trop mes. Ben, je sais pas, mon premier amour du costume, tu vois.